En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Notre comportement est largement conditionné par nos émotions, mais ce domaine reste encore bien mystérieux. La biologie, la médecine, la philosophie, la sociologie et le droit sont des disciplines susceptibles d'aider à mieux approcher ce domaine. C'est la raison pour laquelle a été organisé le colloque « Émotions et santé, émotions et société » à l'Institut de France en novembre 2011. Canal Académie retransmet chacune de ses interventions. Retrouvez ici le neurologue et académicien des sciences Pierre Buzère, où dans son intervention, il développe la part de l'empathie sous l'approche neurobiologique, cette capacité de l'homme à se mettre à la place de l'autre sur le plan émotionnel. Pour suivre au mieux sa communication, nous vous invitons à télécharger son support visuel. Vous le retrouverez sur notre site. On retrouve sans plus tarder Pierre Buzère.
Le problème qui se pose est en réalité, quand ça s'appelle émotion et société, émotion, cerveau et société, et il n'y a pas nécessairement de l'émotion partout. Dans ce que je vais vous dire, mon but ici est plutôt de vous montrer comment, dans les 20 dernières années ou 30 dernières années, on est enfin arrivé à s'intéresser au rôle du cerveau dans les relations sociales et, bien entendu, chez l'humain, mais aussi chez l'animal. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de zoologie, c'est bien évident. Mais je vais essayer d'en rester aux singes et à l'homme, c'est-à-dire aux anthropoïdes, aux anthropomorphes plus précisément, et d'aller jusqu'à l'homme pour effectivement essayer de comprendre comment on a pu déceler dans le fonctionnement cérébral des indices de contact avec l'autre. C'est un peu le problème que je vais discuter rapidement avec vous. Cette première diapo vous montre au fond que l'émotion comporte, ceci est un rappel classique, ce sont presque des banalités, pour un physiologiste tout au moins, des réactions végétatives et des réactions somatiques. Lorsqu'on regarde comment l'émotion est structurée, la réaction émotionnelle, attention, j'utilise le terme d'émotionnel, qui n'est pas un terme véritablement très bon français, mais il faut en s'en servir car nous n'avons pas autre chose. Émotif, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, dans la réaction émotionnelle, il y a, que ce soit chez l'animal ou chez l'homme, dans la base en quelque sorte, soit l'attaque-défense, soit l'approche. Ce sont les deux possibilités entre, disons, des sociétés élémentaires, en quelque sorte. Nous avons ici les signes somatiques, c'est-à-dire du corps. Vous avez d'un côté l'individu A et de l'autre côté l'individu B. Des signaux, vous avez des signaux somatiques et les signaux reçus. La mimique faciale, bien entendu, qui est très importante. L'activité gestuelle, en particulier aussi. Les signes posturaux, tout ça est d'une parfaite banalité, mais il est bon de le rappeler. Et le cas échéant, l'attaqué ou le répondant procède à des réactions analogues. Vous avez donc des signaux posturaux et ensuite les signaux sonores qui, bien entendu, sont importants. Il y a également chez le répondant et éventuellement l'attaquant aussi, activité gestuelle, signaux sonores. Et lorsqu'il s'agit de l'espèce humaine, nous avons évidemment des communications verbales, je n'ai pas besoin d'insister davantage. D'autre part, nous avons les signaux des réactions végétatives qui font partie de la réaction émotionnelle. Vous avez là des réactions, soit on dit en général, très souvent on dit que l'émotion est un phénomène orthosympathique. C'est absolument faux. L'émotion, c'est essentiellement, du point de vue du système végétatif, un déséquilibre parasympathique. Vous avez là la sudation, transpiration, l'amidriase, c'est-à-dire la dilatation pupillaire, la piloérection, c'est-à-dire les poils hérissés, quand on dit les cheveux qui se hérissent, et chez l'animal aussi, ça se voit très bien, plus particulièrement chez les carnivores d'ailleurs, le chat qui a les poils hérissés, la sudation, la tachycardie, c'est-à-dire l'accélération cardiaque, ça n'est pas toujours le cas, il y a des animaux qui présentent une bradycardie, au contraire, un ralentissement cardiaque, il m'est arrivé d'observer ça chez le pigeon. Le pigeon qui a peur se met à ralentir son cœur. La tachypnée, c'est-à-dire la respiration rapide, et les réactions vasomotrices, bien entendu, soit vasoconstriction, c'est-à-dire pâleur, soit vasodilatation, c'est-à-dire rougissement. Et chez l'homme, vous avez en plus la lacrymation, c'est-à-dire le pleur, et le rire qui peut être somatique et végétatif à la fois. Le point suivant que je voulais préciser un petit peu, c'est de voir quelles sont les structures corticales lorsqu'on cherche la source des émotions. Le point important, pendant presque un siècle ou davantage, on a cherché les structures qui sont impliquées dans l'émotion. Or, on ne peut pas véritablement être très localisateur. Comme vous allez voir, il y a vraiment toute une série de structures. Là, on a d'abord utilisé, je passe sur la première ligne, le Shamrake, je n'en parle pas, mais les stimulations centrales, les stimulations localisées des centres nerveux, que ce soit chez les primates comme le macaque, ou bien que ce soit chez, très souvent chez le chat ou le chien moins, mais le chat, parce que les animaux de compagnie, si je puis dire, des expérimentateurs, c'est essentiellement le macaque, et dans ce genre de travail, c'est essentiellement le macaque et le chat. Le rôle des noyaux temporaux profonds, je vais vous les montrer, il y a un noyau qui s'appelle l'amygdale et l'autre l'hippocampe que l'on connaît en général. Deuxièmement, le rôle de l'hypothalamus, qui est également très important. Et enfin, les noyaux du tronc cérébral. Évidemment, je vous emmène un peu dans l'anatomie nerveuse, mais vous allez voir, ce n'est pas terrible. Là, ici, vous en verrez plusieurs, d'ailleurs. Le cerveau humain, cette fois-ci, il s'agit du cerveau humain, chez lequel vous avez à gauche, ça c'est une coupe médiane du cerveau, le cerveau vu lorsqu'on en a enlevé l'autre partie, si je puis dire. C'est donc l'hémisphère droit, avec à gauche, tout à fait, à gauche toute, vous avez le pôle frontal, c'est-à-dire l'avant, en arrière, le pôle occipital, et puis en dessous, vous avez le cervelet. Et j'ai encadré les structures qui jouent un rôle fondamental chez nous, comme chez un certain nombre d'espèces de mammifères, et ailleurs aussi, peut-être, l'hypothalamus, qui est marqué, vous avez l'amygdala, qui est un noyau profond du cerveau, à ne pas confondre avec l'amygdale de la gorge, c'est-à-dire les tonsilles, c'est tout à fait autre chose. C'est l'amygdala, c'est un noyau du cerveau, et les noyaux du tronc cérébral, vous voyez en bas, le tronc cérébral qui longe le cervelet en quelque sorte. Donc nous avons ces trois structures qui sont importantes. Et ce que je viens de vous montrer avant, c'était le résultat d'anciennes expériences que l'on a confirmées et reconfirmées, et on sait pour de bon que l'émotion dépend de ces structures-là. Mais on en a trouvé d'autres encore, qui sont importantes et sur lesquelles on insiste beaucoup plus actuellement. Vous retrouvez le cerveau à droite, vous retrouvez le cerveau que je vous ai projeté tout à l'heure, vous avez les noyaux du tronc cérébral comme tout à l'heure, mais là on a rajouté le cortex cingulaire, qui est une structure très curieuse, elle est en cette espèce d'arc noir, et qui se trouve sur la face médiane de notre cerveau, et qui est juste au-dessus de cet arc blanc, tout blanc, qu'on appelle le corps calleux, qui est un ensemble de fibres qui relie les deux hémisphères. Eh bien, au-dessus, il y a ce cortex cingulaire qui joue de plus en plus d'important, qui a un rôle de plus en plus important, apparemment, lorsqu'on pousse un peu, comme on peut le faire maintenant, en particulier avec l'imagerie cérébrale, l'exploration de structures qu'on ne pouvait pas explorer facilement auparavant. Une autre structure qui est très discrète, qu'on avait un peu abandonnée complètement, qui s'appelle l'insula, et qui est, cette fois-ci, vous avez le cerveau qui est dans le sens contraire, c'est le même cerveau d'ailleurs, si je puis dire. Nous avons le pôle frontal, cette fois-ci, est à droite, le cervelet, vous le voyez tout en bas, et puis vous avez S1 et S2, ce sont les aires somatiques, les aires de sensibilité générale, les aires de sensibilité générale, et puis en dessous, et médiane j'entends, entre l'avant et l'arrière, et puis en dessous, vous avez l'insula qui est visible là. Alors toutes ces structures, on a si vous voulez le choix entre toutes ces structures quand on essaye de voir quelle est leur importance dans les comportements de soit de l'homme, soit de l'animal. En général, j'en reste, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en reste aux singes, aux primates, d'une façon générale aux primates, c'est-à-dire singes inférieurs, c'est-à-dire le macaque, l'ensemble des singes anthropoïdes, si je puis dire, c'est-à-dire le gorille, l'orang-outan et le chimpanzé. La suivante commence à nous emmener dans la différence entre ce qui est émotion et ce qui est l'apparence de l'émotion. C'est une assez jolie image qui montre que le sujet ou la sujette, si l'on veut, qui se trouve en haut, a un véritable sourire. Et on voit s'allumer, car ici on utilise essentiellement l'IRM, c'est-à-dire la résonance magnétique nucléaire, la résonance magnétique fonctionnelle, IRMF. C'est-à-dire que c'est une imagerie qui ne nécessite pas de marqueur, qu'on peut utiliser, qui est fondé uniquement sur l'appréciation ou la mesure de la circulation cérébrale et qui permettent de voir quels sont les aires qui sont activées sans marqueur chez un sujet normal, ce qui est évidemment extrêmement avantageux pour l'expérimentation. On n'a pas besoin de soumettre le sujet à toute une série de gesticulations précédant l'exploration elle-même. Alors, vous avez en haut, vous retrouvez le gyrus singulaire que vous avez là, c'est-à-dire la face médiane. Cette dame sourit et les deux structures limbiques, c'est-à-dire les structures qui sont autour du corps calleux, s'allument et ces structures sont constituent effectivement un centre de l'émotion, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une des structures. Je n'aime pas beaucoup utiliser le centre parce que, comme vous avez pu comprendre, l'émotion, comme bien les activités, ne peut pas être localisée en un seul point du cerveau. Ici, c'est le cingulum qui est donc en jeu. Et en bas, voici ce qui se passe lorsque la même personne simule le sourire, sans avoir le sourire émotif. Eh bien, à ce moment-là, rien ne se passe dans le limbique, et ce n'est pas montré dans le singulaire, on ne voit rien, on ne l'a pas montré. Mais ce qu'on voit simplement, c'est l'allumage des structures latérales qui correspondent à la commande motrice des muscles de la face. Autrement dit, le contraste est net entre ce qui se passe lorsqu'il y a le côté affectif, émotionnel, qui est dans le coup, si je puis dire, ou bien simplement lorsqu'on demande à la personne de faire semblant de sourire. Voilà l'image. Alors nous allons passer maintenant un peu nous allons vers la société. Voilà un cas où l'on montre l'allumage, mais vous voyez ce cerveau, cette fois-ci, on donne le résultat des explorations IRM, des explorations de résonance magnétique. Vous avez deux points avec deux caractéristiques un peu différentes, soit une histoire triste ou bien une histoire triste et gaie, enfin toutes sortes de choses. Toujours est-il que vous voyez des allumages très précis dans cette région, ce qui est déjà un signe donc de participation de bien des aires corticales, nous en avons vu, mais nous en avons encore d'autres, et en voici en particulier dans la région tout à fait du front, parce que ce que vous voyez là, c'est évidemment le crâne, vous avez le début des muscles faciaux à gauche, et puis vous retrouvez le cervelet à droite, etc. Ça se passe dans le lobe, à la base du lobe frontal. La suivante nous montre l'amygdale. Cette fois-ci, c'est une jolie expérience qui a été faite par un groupe et qui a mesuré, c'est une vingtaine de sujets, qui a mesuré la taille de l'amygdala. Cette fois-ci, nous entrons dans le social. Taille de l'amygdala, et chez une vingtaine de personnes, bien sûr à parier par ailleurs, selon le niveau de leur activité sociale. Les deux amygdalas sont très visibles là, un petit peu, l'image est un peu bricolée, mais de toute façon, on voit bien, on les situe bien, à droite on les situe moins bien, mais à gauche vous les voyez très bien en jaune, orange. La suivante nous montre une chose très curieuse, mais qui est intéressante, c'est que en abscisse, vous avez la taille en millimètres cubes calculée de l'amygdala. Toute variation en tenant compte des variations de taille, etc. Tout ça a été très bien fait. Donc, le volume de l'amygdala en millimètres cubes. Et en ordonnée, l'activité sociale, si je puis dire. Le nombre d'affaires et le nombre de personnes avec lesquelles ces sujets, dont vous voyez, ils sont assez nombreux, ont eu finalement affaire. Alors, bien entendu, la droite, nous avons une variation assez importante. On ne peut pas rêver de variations parfaitement linéaires. Mais toujours est-il que on saisit très joliment tout de même la dépendance de l'amygdala, de le volume de l'amygdala et de l'activité en quelque sorte sociale. C'est un exemple qui montre bien la corrélation entre les deux. Cette fois, nous allons plus loin. Nous allons plus loin et nous arrivons à des expériences qui datent de la fin de la période des années 80-90. L'observation est due à un de nos confrères étrangers, italien, Rizzolatti, un de nos confrères académiciens. Et l'expérience est la suivante. Vous voyez le petit singe qui se cache là au milieu. En haut, en A, vous avez l'opérateur. Et tout à gauche, ensuite vous avez le singe que l'on explore. C'est un macaque. On explore ce macaque avec des microélectrodes, une microélectrode ou plusieurs microélectrodes qui permettent d'enregistrer les activités cellulaires des neurones moteurs, des neurones du cortex moteur ou prémoteur du singe. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrodes qui enregistrent chaque fois des influx. Comme vous voyez, une succession d'influx à partir de la flèche. Je pense que vous le voyez. Donc, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'étage du haut. Bon, je voudrais commencer par le bas. Quand le singe effectue ce mouvement, vous voyez la patte du singe qui va effectuer le mouvement de préhension de l'objet sur la plaque. Voici les décharges des neurones de son préfrontal. Je vais vous montrer tout à l'heure le cortex, le préfrontal. Et l'expérience fondamentale et l'observation inouïe en quelque sorte, c'est que quand le singe regarde l'opérateur, son copain si je puis dire, l'opérateur faire le même mouvement, les mêmes neurones, déchargent pratiquement de la même façon. Ce qui veut dire, et là, le singe ne bouge pas cette fois-ci, ce qui veut dire qu'il existe dans notre cerveau des neurones qui savent imiter, savent reconnaître un mouvement que fait l'autre, je puis dire, et qu'ils eux-mêmes, ces mêmes neurones, feraient le mouvement. Autrement dit, ils ont appelé ça des neurones miroirs. C'est vraiment les neurones de l'imitation, c'est la première fois que l'on pouvait voir dans le cerveau des neurones qui à la fois étaient mis en jeu quand l'animal faisait un mouvement ou bien quand l'animal regardait quelqu'un faire le même mouvement. Voilà donc en gros cette expérience qui est unique en quelque sorte. Bien entendu, il y a chacune de ces expériences que je vous montre, elles ont fait l'objet de quantités de recherches, de contre-recherches, de discussions. Mais le fait est là. Et c'est un fait important. Nous en reparlerons tout à l'heure. Ceci est un cerveau de macaque, car ce travail a été fait chez le macaque. On ne peut pas imaginer de le faire chez l'homme, bien sûr, de cette façon-là. On ne peut pas imaginer non plus de le faire chez le chimpanzé, parce que classiquement, un chimpanzé, on ne touche pas au chimpanzé. On fait beaucoup d'observations et nous allons y arriver, mais on ne fait véritablement pas d'exploration, ou on ne fait pas d'ouverture du crâne, etc., des choses comme ça. Ça ne se fait pas. Alors, chez le macaque, on peut le faire, et voilà la zone que donne Rizzolatti pour son, qui est en avant du cortex moteur. Le cortex moteur, vous voyez le C, le sillon central, qui est le sillon de Rolando, si vous voulez, qui est le cortex moteur, et en avant du cortex moteur, c'est ce qu'on appelle le préfrontal. Voilà pour cette tranche d'expérience. Il ne s'agit pas d'émotion, là, mais il s'agit de voir d'avoir une première indication de la façon dont le cerveau peut réaliser, en quelque sorte, la communication entre un individu et l'autre. Nous arrivons à plus d'important. Là, nous arrivons dans un groupe d'expériences qui ont eu lieu plus tôt que les expériences de Rizzolatti, mais qui concernent encore plus, un point plus important dans l'interaction entre les sujets. Il s'agit de ceci. C'est un Américain, David Premack, qui a réalisé l'expérience qui a pu montrer. Cette fois-ci, chez les bonobos, c'est-à-dire les chimpanzés les plus proches de nous. Parce que chez les chimpanzés, il y a le chimpanzé lui-même et le bonobo, qui est un animal plus sympathique, si je puis dire, mais surtout plus proche de nous, par toutes sortes de signes, même morphologiquement. Et ce sont des expériences, c'est en général très agréable de présenter des faits avec des images, mais quand j'ai essayé de trouver des images de Premack qui pourraient illustrer ce que je vais vous expliquer ou raconter, je n'en ai pas trouvé. C'est un cas exceptionnel où il est plus facile de parler que de montrer des images. Parce que tout se passe, il faudrait montrer un film en réalité. Tout se passe comme si l'animal, le bonobo, plusieurs bonobos sont ensemble et en même temps il y a un opérateur pas loin. Bien sûr, ce sont des animaux complètement familiers. Eh bien, on leur donne des outils, on fait toute une série de choses et on arrive à déceler ceci. Un bonobo est capable de deviner ce que pense, entre guillemets, le camarade ou l'opérateur lui-même. Par exemple, l'opérateur se trouve, arrive dans la salle de, où se trouvent les chimpanzés, et il a envie de prendre un outil pour faire une opération précise. Par exemple, ouvrir une serrure, etc. Eh bien, un bonobo, ira chercher la clé. Sans du tout qu'il y ait eu d'abord de paroles, mais même de gestes. Autrement dit, sinon que le bonobo a vu l'opérateur cherchant, etc. Mais il a immédiatement été chercher la clé pour le donner. Autrement dit, ce sont des expériences extrêmement subtiles qui ont permis de montrer, et ça a été fait et refait, critiqué et recritiqué, mais ça existe. Les singes, seulement les bonobos, pas les macaques, sont capables de deviner la pensée de l'autre, si je puis dire. Et c'est ce qu'on appelle avoir une théorie de l'esprit. Ça a fait le tour du monde, comme les affaires de Risolati plus tard l'ont fait aussi. C'est essentiellement Prémac, c'est Woodruff avec lui, mais c'est Prémac essentiellement, qui a publié en 78. Et ce papier a fait énormément de bruit, parce que c'est à partir de ces données chez le chimpanzé qu'on est remonté à l'homme, pour chercher chez l'homme les mêmes signes, en quelque sorte, capables de lire ce que pense l'autre, l'intentionnalité de l'autre, pour parler moins pensée, mais intentionnalité de l'autre. Alors ça s'est transféré chez l'homme. Alors je n'étais pas sûr, je me suis assuré auprès de mon ami Vagite qui ne parlerait pas de l'autisme, mais je vous en dis un mot. On a pu montrer, pour résumer, que chez l'enfant autiste n'avait pas, comme les enfants normaux, une théorie de l'esprit de l'autre, ne devinait pas ce que pense l'autre. Voilà la manip, l'expérience qui est... Enfin, l'image n'est pas très belle, mais j'ai pris l'image pratiquement originale. C'est un groupe anglais, Uta Friss et Baron Cohen, qui ont commencé, après, ça a donné lieu, bien sûr, à énormément d'applications. L'image comporte 1, 2, 3, 4, 5 étapes successives. En haut, vous avez Sally et Anne, c'est le test de Sally et Anne. Vous avez Sally est à gauche, la gamine, qui a un panier. Il y a la gamine de gauche, la petite de gauche, et Sally a un panier. La petite de droite a une espèce de boîte. Bon. Deuxième, je descends. Deuxième, Sally met sa balle dans son panier. Dans la troisième image, Sally s'en va. Quatrième image, point important, Anne en profite pour piquer la balle et la mettre dans sa boîte. Et alors, la dernière image, tout cela s'est passé devant un observateur, adulte, enfant, etc. On demande à l'observateur, alors Sally revient, et on demande à l'observateur, où est-ce que Sally va chercher sa balle? Alors normalement, un observateur dira dans le panier, puisqu'elle est partie, elle l'a mis dans le panier, donc elle va revenir, elle le cherchera dans le panier. Et un observateur, précisément, un enfant trop petit, de 3 ans, par exemple, je ne sais plus quel âge exactement, de 3 ans, dira, la balle est dans la boîte. Et un enfant bien plus âgé, normal, dira, elle cherchera dans le panier. Et un enfant autistique ou autiste dira, elle cherche dans la boîte. Autrement dit, l'enfant autiste ne s'est pas mis à la place de la petite Sally, mais l'enfant autiste ne décrit que ce qu'il a vu. Et ceci est un test qui, je ne sais pas si j'ai été assez clair, c'est un test qui a été utilisé et réutilisé, enfin avec des images pas toujours aussi primitives que celles-là, mais le principe est toujours le même. Il y a toujours ce fait que l'enfant autiste ne devine pas ce que l'esprit de l'autre contient, si vous voulez. La perception ou les intentions de l'autre. Voilà cet énorme chapitre que j'ouvre et que je ferme immédiatement, alors que rien que cela aurait fait l'objet, bien sûr, d'un exposé de bien des heures. Parce qu'il y a eu des critiques, parce qu'il y a eu des contre-épreuves, etc. Il y a divers niveaux de maladies de l'autisme, il y a la maladie d'Asperger qui n'est pas tout à fait la même, etc., etc., etc. Mais toujours est-il que fait est là. Pratiquement le dernier stade, cette fois-ci nous arrivons dans l'empathie. L'empathie est un peu à l'ordre du jour, si je puis dire. C'est en quelque sorte, plus que la compréhension, le partage de la souffrance de l'autre. Et bien entendu, là aussi, il y a un contact étroit. Une personne est capable de souffrir comme l'autre qui souffre réellement. L'idée de l'empathie vient de Husserl, qu'il l'avait prise à un dénommé Lips, et cela a été essentiellement très développé par l'assistante de Husserl, qui était Edith Stein, qui était une juive allemande, et qui s'est ensuite convertie au catholicisme, et lorsque ça se passait dans les années 30, et quand Hitler est venu au pouvoir, les nazis, elle est partie en Hollande, dans un couvent, et les Allemands l'ont piquée, elle est morte à Auschwitz. Alors, c'est un peu Edith Stein qui est à l'origine de tout cet énorme mouvement pour l'empathie. Ceci est un travail récent, 2007, je ne sais plus exactement. Toujours est-il qu'il y a un auteur en particulier, il y en a plusieurs, mais enfin un auteur, Desetti, qui fut un élève de notre regretté confrère Jeannereau, et Desetti, qui est maintenant aux États-Unis définitivement sans doute. Cette image est un peu complexe, mais je voudrais simplement préciser le principe de l'observation de ces... Il prend des images IRM d'un sujet qui regarde un autre sujet subir le coup de marteau, le coup de... J'ai même un clou qu'on enfonce dans sa chair, etc. Autrement dit, les images sont allumées par la vision de la souffrance de l'autre. C'est un peu compliqué. Et Desetti, qui n'est pas un homme simple, a fait un dessin dont je vous épargne le détail, qui sont les voies multiples de la douleur et aussi du sentiment que l'on peut avoir à côté de la pure douleur, si je puis dire. Cette image résume. Desetti s'est posé aussi la question, et c'est un long travail, la question de savoir si les neurones miroirs, tout ce que je vous ai montré en ce qui concerne la théorie de l'esprit, surtout la théorie de l'esprit et l'empathie, la représentation de cette empathie était représentée dans les mêmes structures. Eh bien, vous voyez, il a fait une statistique, les détails sont un peu complexes, mais en gros, il y a une région dans le cerveau qui s'allume à peu près pour les deux principales activités que nous avons vues, ces activités sociales en quelque sorte, c'est d'une part la théorie de l'esprit et d'autre part l'empathie. Ce sont des choses voisines en quelque sorte. Dans un cas, on devine ce qu'est l'esprit, et d'autre part, on souffre pour l'autre. Et vous voyez qu'il y a un allumage IRM dans la même région. Cette région, c'est le cortex humain un peu tordu, un peu ouvert, un peu déformé, pour montrer les possibilités d'aller un peu dans les sillons. C'est évidemment pas tout à fait réel. Vous avez là le cortex frontal, le pôle frontal est à droite, le pôle occipital est à la gauche, le temporal est en bas. Pour ceux qui connaissent le cerveau un petit peu, le sillon de Sylvius est énormément ouvert. Vous voyez, il n'existe pas, il n'est pas ouvert normalement comme ça. Et voilà, derrière, vous avez cette tache dans la région que l'on pourrait qualifier de pariéto-temporo-occipital. C'est un espèce de carrefour, pariéto-temporo-occipital. Et c'est dans cette région qu'on a une majorité, une concentration des points qui sont allumés lors de ces deux activités différentes. Soit la théorie de l'esprit, soit deviner l'esprit de l'autre, soit souffrir pour l'autre, si je puis simplifier. Alors, je suis au bout de cette étude, je vais simplement, encore, je ne peux pas résister à la tentation de vous projeter deux images. Voilà, ça s'appelle quelques remarques. La première est, nous remet à Darwin, ou presque. Ce sont finalement les anthropoïdes, les singes anthropoïdes. C'est-à-dire, il y a tout de même une évolution à l'intérieur de ces animaux. Le macaque n'est pas là. Il n'est plus là, le macaque. Il ne vient pas dans l'affaire. Vous avez à gauche l'orang-outan, puis le gorille, puis le chimpanzé ordinaire, puis notre bonobo, et puis, mon Dieu, une compatriote, si je puis dire. Et, bon, ces arbres généalogiques sont loin d'être extrêmement précis, mais enfin, tout de même, l'idée générale est là. Cette idée générale est que, et là je continuerai encore un instant, à vous apporter une donnée, et à vous apporter une donnée, à savoir que beaucoup d'auteurs actuellement s'interrogent pour savoir s'il n'y a pas tout de même une progression. Bien sûr, il y en a une, puisque nous ne sommes pas des bonobos tout de même. Mais enfin, dans l'ensemble, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui change progressivement? Au point de vue émotionnel en particulier, au point de vue des relations interindividuelles à l'intérieur d'un groupe. On a vu qu'il existe des cellules particulières dans le gyrus singulaire, celui que je vous ai montré plusieurs fois, ce truc qui est au milieu, sur la face médiane de notre cerveau, eh bien, il y a des cellules, nous avons appelé ça cellules étoilées, si je ne me trompe, des neurones, bien sûr, et ils les ont comptées. Ils ont compté la quantité de ces cellules. Ils en ont trouvé un petit peu chez Laurent, un petit peu plus chez le gorille, et encore plus chez le chimpanzé, encore plus chez le bonobo, et chez nous, il y en a beaucoup. Alors, l'idée est que ces cellules contribuerait en quelque sorte à assurer à l'intérieur d'une espèce et de plus en plus au fur et à mesure que l'on monte dans la hiérarchie phylogénétique, ont une inhibition des tendances primaires d'attaque-défense, tout simplement. Autrement dit, c'est ce qui expliquerait que les groupes de singes arrivent en particulier à véritablement être ensemble probablement, et utiliser des cris, souvent d'ailleurs nous l'avons pu le voir dans les zoos, ils utilisent des cris, on dirait qu'ils vont se battre, mais pas du tout, ils sont ensemble, et ceci représente un progrès dans l'approche, en quelque sorte, de ces animaux, en dehors de l'approche sexuelle qui est autre chose, mais l'approche de ces animaux progressifs, qui, encore une fois, continuent à crier, à s'agiter, mais ne se font pas mal mutuellement, et finalement, c'est peut-être pas complètement stupide de considérer qu'il y a cette progression, la pacification, entre guillemets, qui peut se passer chez ces animaux, chez ces espèces. Alors, on m'a demandé récemment un petit papier sur le sujet de cette conférence, mais sans du tout, c'était complètement indépendant, et j'ai, dans une revue sans intérêt, mais je l'ai donné ce papier, et quand je l'ai reçu, moi j'avais pas donné d'image, et quand je l'ai reçu, j'ai vu que l'éditeur avait mis une image, et je ne résiste pas à la tentation de vous la donner, c'est la dernière. Vous avez un certain nombre de bonobos. J'ai demandé à plusieurs personnes de mon entourage de les compter, ils n'ont jamais tombé sur le même nombre, et ces bonobos sont ensemble, comme ça. Ils sont, vous voyez, il y en a un qui crie, mais il n'y a aucun geste d'activité agressive chez eux. C'est assez extraordinaire, et c'est un petit peu la conclusion de mon exposé. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre Pierre Buzer, neurobiologiste, membre de l'Académie des sciences, sur le cerveau émetteur et lecteur de messages sociaux, ceci dans le cadre du colloque Émotion et santé, émotion et société à l'Institut de France en novembre 2011. Un colloque organisé par l'association Être humain, présidée par Bérénice Tournafond, et dont vous retrouverez les programmes sur leur site hommecontemporain.org. En attendant, restez en notre compagnie en téléchargeant les deux autres interventions de ce colloque. Retrouvez l'introduction par Bérénice Tournafond, ainsi que l'intervention de Jean Béchler, philosophe et historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, sur l'impact des émotions dans la société et la politique. Et puis également, sur notre site, retrouvez la communication du professeur Yves Agide, neurologue, membre de l'Académie des sciences. Son propos porte sur le traitement de troubles émotionnels par la neurologie. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.